Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs, auditrices de la Radio Rage, voix de jeunes, bonjour. Bienvenue à l'émission Café des Libertés. Cette émission qui sera consacrée au nouveau texte de loi sur la santé publique, qui est en cours d'adoption aujourd'hui au Parlement. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir parmi nous deux invités, le docteur Lies Mirabet du syndicat SNPSP, du président du syndicat national des praticiens de santé publique. Bonjour.
Bonjour, bonjour à nos auditeurs aussi.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons aussi Jamel Bahloul, député du Forum des Forces Socialistes. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci Kamel et merci pour Raj pour cette invitation.
Cette émission est consacrée au nouveau texte de loi sur la santé publique, un texte de loi qui a fait couler beaucoup d'encre, un texte très controversé et critiqué par la classe politique, les syndicats et la société. Un texte qui remet en cause le principe de la gratuité des soins et aussi l'engagement de l'État dans la promotion et la préservation du secteur de la santé publique, mais aussi un texte de loi que le gouvernement présente comme une nécessité vu la situation du secteur de la santé publique. Public, comme aussi une réponse aux attentes de la société, aussi celle de la corporation, et aussi une nécessité de moderniser le secteur de la santé publique vu les mutations sociales que connaît notre société. Donc, je commence par vous, Monsieur Mirabet Lies. Vous êtes un syndicat du secteur de la santé. Vous avez rejeté le texte. Pourquoi, en première?
Déjà, je me permettrai de préciser, de dire déjà merci pour Raj de nous avoir offert cette tribune pour revenir sur ce sujet. Vous le dites si bien, c'est un sujet de société qui interpelle tout le monde, qui concerne tout le monde, et dans lequel, ou à travers lequel aussi, tout le monde peut intervenir et interférer. Malheureusement, il faut le dire aussi que le projet de loi n'a pas pris face... ce qu'il faut, voilà tout ce qu'il mérite en matière de discussion, de concertation et de débat. Et nous considérons qu'une fois, nous constatons à nos dépens en tant que citoyens aussi, pas uniquement en tant que professionnel, et en tant que militant syndicaliste, que le gouvernement fait aussi dans la précipitation, fait dans le coup de force, je dirais, pour faire passer encore une fois un projet de loi ou une loi qui va dans la projection du gouvernement par rapport à l'austérité qui s'est installée au niveau financier par rapport aux dépenses publiques, mais surtout cette austérité qui commence à greffer lourdement le pouvoir d'achat des Algériens et la réalité sociale aussi de la société algérienne, parce que tout simplement lorsque on est en train de mettre des garde-fous, de réduire l'espace, je dirais, de l'accessibilité aux soins, c'est tout simplement on est en train aussi de greffer encore une fois le pouvoir d'achat, parce qu'il y a aussi, il n'est pas uniquement matériel, il n'est pas uniquement au niveau des dinars qu'on injecte dans les salaires, c'est aussi au niveau de ces prestations qui doivent accompagner le pouvoir d'achat et notamment au niveau santé. Donc nous considérons que on est interpellé en tant que professionnel, on est interpellé en tant que citoyen, on est interpellé en tant qu'assurés sociaux et on l'est aussi en tant que syndicat, parce que tout simplement nous avons fait une lecture, je dirais, global du projet de texte. Ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'on est en train de travailler dessus, à travers les wilayas, à travers des conseils des wilayas, des conseils régionaux, mais aussi un conseil national qui a adopté et validé un texte que nous avons soumis à toutes les instances, y compris aux groupes parlementaires, aux partis politiques, au service de la présidence de la République, au premier ministère, mais bien sûr au ministère de la Santé. Mais malheureusement, nous avons constaté à nos dépens, encore une fois, on est sur cette logique du gouvernement, dit ce que vous voulez, on fait ce qu'on veut, malheureusement.
Justement, vous parlez de coup de force, donc je reviens à Jamel Bahloul. Donc aujourd'hui, c'est l'adoption du texte, du nouveau texte de loi sur la santé publique. Le FFS a appelé au retrait tout azimut du texte. Le FFS a a déclaré que le texte, vous avez considéré que le texte est une mise en cause de, c'est-à-dire des hackings de la santé publique, mais aussi vous dites que le texte de loi aussi, il consacre le retiring graduel de l'État de soutien à la santé publique. Donc,
effectivement, c'est-à-dire à la lecture du projet de loi, nous avons constaté que c'est un projet de loi qui constitue un danger sur la prise en charge sanitaire des Algériennes et des Algériens. C'est pour ça nous avons immédiatement exigé et demandé le gel et le retrait de ce texte de loi et sa non-présentation pour adoption. Même si, on l'a dit, même si il est débattu au niveau de la commission, même si il est débattu au niveau de la plénière de l'Assemblée, et c'est pas encore trop tard. Ils peuvent quand même rectifier le tir et le retirer et ne pas le présenter pour adoption et ouvrir un débat national, un débat notamment, c'est-à-dire un débat où seront conviés notamment les professionnels de la santé, les experts, la société civile et même pourquoi pas les partis politiques, parce que c'est-à-dire le sujet ou la loi traite de la santé des Algériens, de la stratégie de la santé et comment faire, c'est-à-dire une loi alternative par rapport à la situation que vit le secteur de la santé actuellement. Nous, le constat de tous les Algériens s'entendent à dire que il y a bureaucratie, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'insuffisances, il y a une volonté énorme de la part des professionnels, c'est-à-dire les médecins, le paramédical et les gestionnaires, mais on n'arrive pas à sortir à avoir un système sanitaire performant. C'est pour ça que nous avons dit il faut associer des professionnels, notamment les professionnels. Moi, quand j'ai lu le rapport du syndicat, où ils disent que la dernière rencontre dont ils ont été conviés à participer, c'était en 2014 lors des assises sur la santé. Depuis, ils n'ont pas été concertés ni consultés de la part de la tutelle en charge du ministère. Donc, comment préparer, proposer une loi sans associer les professionnels de la santé ou les représentants légaux et légitimes des professionnels de la santé. S'ajoute à tout cela le danger, parce que j'ai dit, c'est-à-dire il y a un recul, on dit, il y a un désengagement. Nous, au groupe parlementaire du FFS, quand on a fait lecture et analyse du texte, c'est-à-dire on a conclu à une synthèse, c'est le désengagement de l'État et le transfert de l'État, c'est-à-dire de la prise en charge sanitaire vers les ménages. C'est-à-dire, au lieu, l'État doit prendre, parce que même l'article 66 de la Constitution le stipule, le droit à la santé, l'État doit prendre en charge la santé des citoyennes et des citoyens. Donc, mais là, on constate qu'il y a un désengagement graduel de l'État vers d'autres, sous prétexte de la crise financière, sous prétexte de la recherche de nouveaux modes de financement de la santé. Donc, il y a beaucoup de contradictions dans ce texte. Et il y a, c'est-à-dire des contradictions article et article, chapitre et chapitre. Et, c'est-à-dire on la qualifie. C'est-à-dire c'est une loi avec un préambule ou un chapeau idéologique. Mais c'est-à-dire d'une idéologie, d'une certaine idéologie, mais quand on lit les articles, le contenu, c'est une autre option vers la libéralisation, vers le désengagement de l'État, vers le transfert, c'est-à-dire au lieu que c'est l'État qui prend en charge la santé du citoyen, on transfère cela vers d'autres institutions, là, organismes, avec des points d'interrogation.
Mais le gouvernement défend son projet en disant, c'est-à-dire ne remet pas en cause la gratuité des soins, ne répond pas en cause les textes. Donc,
le concept, déjà, il faudrait le définir, la gratuité des soins. Est-ce que les soins sont actuellement gratuits? Tout simplement. La gratuité des soins n'existe pas chez nous, n'existe pas ailleurs aussi, hein, ni en France, ni aux États-Unis, ni en Allemagne. Tout simplement, c'est l'accès aux soins qui est facilité, sans contrepartie financière immédiate, parce que tout simplement, on a affaire à des assurés sociaux qui sont en train de cotiser, donc de contribuer financièrement, en amont pour pouvoir, lorsqu'on a besoin, ou lorsqu'on interfère avec le besoin des prestations de soins, quelle que soit la prestation, on a déjà une couverture, donc on a déjà payé indirectement la contrepartie. Donc la gratuité en absolu, elle n'existe pas, ni chez nous, ni ailleurs. il faut le dire, il faut le dire et le répéter assez, parce que tout simplement, apparemment, c'est sur cette, sur ce concept qui est basé le véhicule, du message que veut laisser les pouvoirs publics, donc le gouvernement, à travers ce projet de loi, qui ne dit pas son nom. Nous avons préféré, pour le syndicat des praticiens de santé publique, de laisser un titre. Nous l'avons dit, c'est un projet de loi pour ceux qui veulent investir leur argent dans le secteur public de la santé, ou dans le système de santé, tout simplement. Voilà. On est passé au niveau du secteur économique à démanteler, à ouvrir des espaces pratiquement sans limite à l'investissement privé. Et ça fait quelques mois, quelques années, je dirais, que les mêmes partenaires du gouvernement en matière d'investissement financier l'ont dit clairement. Il faut ouvrir l'investissement privé et dans tous les secteurs sans exception. Ils l'ont dit tout simplement. Et je pense que on est arrivé maintenant au secteur prestataire qui est un secteur très important, la santé de la population, parce que tout simplement, c'est un investissement qui va dans la pérennité pratiquement. Il s'installe dans une population qui s'agrandit, une population qui vieillit, c'est-à-dire une situation démographique, une situation aussi sanitaire qui va évoluer d'une manière exponentielle par rapport aux besoins qui vont s'exprimer. Et je pense que ceux qui veulent investir dans ce créneau sont très rassurés par rapport au fait que nous pouvons travailler à long terme. Mais il faudrait qu'il y ait une réglementation, un cadre réglementaire qui protège l'investissement et qui protège ses intérêts et qui permet aussi d'élargir le champ d'action du secteur privé. Voilà la lecture que nous avons fait d'une manière sommaire, mais lorsqu'on est allé dans la critique, je dirais, du détail, qui fait les grands axes du projet, nous n'avons tout simplement pu confirmer justement nos appréhensions, que ce soit au niveau des modes de financement ou aller vers des sources de financement. Je confirme. Et d'ailleurs, je remercie le groupe parlementaire du FFS qui, avec d'autres groupes parlementaires, se sont intéressés justement au travail du SNPSP, du Syndicat National des Praticiens de Santé Publique. Nous l'avons soumis à débat, nous l'avons soumis aussi à la critique, parce que tout simplement, c'est une réflexion que nous a une contribution de notre part. Peut-être que, nous avons laissé de côté certains aspects que nous n'avons pas pu développer ou bien développer ou suffisamment développer, mais nous considérons que pour l'essentiel, nous avons laissé un avis quand même qu'il y a à prendre en considération. Voilà. Il est dans le mode d'exercice. Il est remis en cause à travers cette loi qui fait dans l'élargissement et la consécration, l'élargissement de l'activité, ce qu'on appelle l'activité complémentaire et lucrative, permettre aux professionnels de la santé d'exercer dans deux secteurs en même temps, sans garde-fou, sans qu'il y ait une organisation, sans qu'il y ait les moyens de contrôler et d'accompagner. Nous considérons que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, ce mode d'exercice a créé beaucoup de problèmes et a nui à l'image de la corporation médicale de manière générale, mais il a nui aussi en particulier aux intérêts des malades que nous sommes, parce que nous sommes aussi malades et nous interagissons avec le système de santé de cette manière. On n'est pas tout simplement médecin, on est aussi citoyen et demandeur de prestations.
Justement, votre syndicat a sur un des aspects, c'est-à-dire l'intégration de la complémentarité du secteur public et avec le privé, donc cette contractualisation des soins, n'est-elle pas une remise directe en cause de l'engagement de l'État vers Jamel, si vous pouvez donc parler à vous?
Non, c'est-à-dire, en réalité, c'est un texte, c'est-à-dire, les non-dits du texte, parce qu'il y a, mais les non-dits, c'est le désengagement de l'État, l'État se désengage, vers des trucs, la prévention, la formation, mais, c'est-à-dire, l'accessibilité aux soins, il y a vraiment réduction, c'est-à-dire, de l'accès aux soins pour le citoyen. C'est-à-dire, le citoyen aujourd'hui, même les assurés sociaux, parce que quand on dit, c'est-à-dire, entre les articles, il y a l'article 12, où le gouvernement et l'alliance présidentielle sont en train de vendre, de faire passer cette loi, ou là, de vendre cette loi aux citoyens, aux Algériens, à travers l'article 12, qui stipule clairement que l'État garantit la gratuité des soins. Mais il y a d'autres articles qui contredisent cet article. Il y a des articles qui consacrent, disons, un montage financier pour la prise en charge des soins, mais sans l'expliciter, sans le détailler, sans le limiter aussi. Parce que l'article 348, qui, c'est-à-dire, aussi, il contredit l'article 12 c'est-à-dire il annonce clairement et net, clair et net que le patient est, à, est appelé à contribuer à payer ses soins.
Tout à fait.
À contribuer. Donc qu'est-ce que quand on dit contribuer à prendre en charge ses soins ou à payer les soins, ça veut dire c'est-à-dire ce n'est pas la gratuité né à la gratuité, c'est-à-dire c'est une gratuité peut-être partielle, mais c'est-à-dire les ménages sont appelés à débourser pour les soins de leur donc malade ou là c'est-à-dire il y a aussi c'est-à-dire la sécurité sociale qui doit prendre en charge les assurés sociaux et leurs ayants droit. Mais la sécurité, c'est-à-dire sans avoir aussi l'idée, sachant que la caisse de la sécurité sociale, il y a un risque donc de faillite de cette caisse, parce que des fois les fonds de cette caisse sont orientés vers d'autres, utilisés pour d'autres, prendre en charge les ayants droit, les retraites des ayants droit et d'autres victimes. Donc, et il y a même un renvoi, c'est-à-dire on fait même impliquer les collectivités locales à participer, à prendre en charge, c'est-à-dire
sur certains aspects,
sachant que la majorité de nos collectivités aussi sont défaillantes, n'ont pas d'expérience sur, parce que quand on dit la collectivité peut investir,
c'est une nouveauté qui a été intégrée dans ce texte.
Donc il y a beaucoup de non-dits, c'est pour ça on dit que réellement il y a un retour sur un certain nombre d'acquis, où là c'est un désengagement de l'État, un désengagement partiel, non déclaré, c'est un désengagement que le gouvernement ne veut pas assumer, que le pouvoir en place ne veut pas assumer, que les partis de la majorité ne veulent pas assumer, mais nous avons eu cette responsabilité de tirer la sonnette d'alarme, même si tout peut être discuté et débattu, mais ouvrir un débat serein, un débat impliquer tous les Algériennes et tous les Algériens, notamment les professionnels du secteur, les experts, donner leur point de vue et arriver à un texte de loi consensuel qui garantira une santé, l'accessibilité au moins aux soins à tous les Algériens et tous les Algériens.
Là, c'est possible. Je voudrais simplement abonder dans le même sens, c'est-à-dire par rapport à la complémentarité. La complémentarité, c'est déjà, par définition, c'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a des espaces bien définis, et on se complémente au niveau des espaces d'activité, on se complète aussi au niveau des buts assignés ou associés justement à l'un des deux secteurs, privé et public. Le syndicat national des praticiens en santé publique, n'est pas pour un secteur de la santé uniquement à 100% public en Algérie, ça n'existe pas ailleurs aussi. On est pour qu'il y ait un secteur privé complémentaire dans le cadre d'un espace défini pour les deux secteurs. Il faudrait que l'espace le plus important soit celui du secteur public, parce que c'est grâce au secteur public, notamment dans les conditions de la pandémie aujourd'hui, à travers l'assurance maladie qui est au bord de la faillite, avec toutes ces difficultés à avoir un financement pérenne consistant justement pour accompagner ces dépenses, nous considérons que l'État doit continuer à jouer ce rôle et à couvrir l'immensité de notre territoire national afin que les soins, dans les trois paliers, donc les soins de base, de spécialité, de la spécialité, peuvent être dispensés aux Algériens là où ils se trouvent et qu'on ne soit pas obligé plutôt à se déplacer, à faire des milliers de kilomètres pour pouvoir bénéficier justement d'un soin ou d'une prise en charge quelconque. À ce niveau-là de l'organisation ou là de la désorganisation justement que connaît le secteur de la santé dans notre pays, malgré les efforts de réforme qui se maintiennent depuis pratiquement 15 ans et l'effort financier aussi qui a été injecté, je dirais, pendant quelques années, parce que tout simplement, même au niveau du financement, on a beau dire des choses, je parle des responsables au niveau du ministère de la Santé, du ministère du Travail et du Premier ministère, au niveau du financement, on est toujours en deçà de ce qui est requis pour un système de santé pour l'Algérie, parce que tout simplement, les recommandations déjà du Fonds monétaire international, du FMI, de la Banque mondiale, et ça fait quelques années que ça a été fait, recommandent pour l'Algérie un minimum de 6% du PIB, alors que c'est des organismes qui prônent l'austérité. Donc ils le revendiquent, ils préconisent pour notre pays un minimum de 6% du PIB. Et ben il faut le dire, on est sur une moyenne de 4%, 4,8% du pourcentage du PIB pour notre système de santé, alors que voilà, dans d'autres pays, c'est une moyenne pratiquement des pays qui sont émergents dans notre situation, ils sont sur une moyenne de 8%. Donc même au niveau du financement, on a beau dire que voilà, il y a un effort qui a été fait, nous le disons que c'est pas suffisant. Le financement, les budgets qui sont alloués au secteur de la santé dans le secteur public, pratiquement 75% va dans les salaires, une moyenne de 15 à 20% dans tout ce qui est médicaments et consommables. Et nous considérons, voilà, pour le reste, voilà, rien n'est laissé, parce que tout simplement, ni pour la formation, ni pour la recherche, ni pour l'acquisition d'équipements, ni pour la mise à jour au niveau des standards de prise en charge, et ni pour l'entretien aussi, nous considérons, ni pour l'hygiène et autre chose, nous considérons que, voilà, le budget qui est alloué au secteur est en deçà, justement, des besoins qui s'expriment. Donc le désengagement, il se fait déjà au niveau des budgets qui sont alloués d'une manière forfaitaire, qui n'accompagne pas la réalité de l'activité et des besoins. Mais à travers ce projet de loi, ça sera encore pire, ça sera encore organisé, encadré et légalisé à travers, justement, un retrait des pouvoirs publics au niveau du financement, mais remplacé à travers un investissement privé qui va se faire avec une arrière-pensée de voilà gagner de l'argent, c'est clair, et ça va pas se faire pour voilà juste pour les beaux yeux des Algériens et des Algériennes. Et l'autre partie, ce sera les ménages, comme l'a si bien expliqué Monsieur Balloul, les ménages qui vont supporter encore plus de poids par rapport à la dépense financière, parce qu'actuellement, les experts disent que ce que débourse la famille algérienne en moyenne, c'est entre 25 à 28% justement du coût de la prestation. En soi, en plus du fait qu'on soit assuré, en plus du fait que le trésor public, qui est l'argent de la population, des citoyens aussi, contribue justement
à cette dépense. Il y a cette création de la carte sanitaire. Est-ce que ça va contribuer à, parce qu'en parallèle, il y a cette volonté d'aller vers l'abandon des établissements publics de la santé de proximité, les EPH. Donc, on fait appel aux collectivités locales.
Premièrement, vous me donnez l'occasion en tant que syndicat et en tant que professionnel de poser la question. Qu'est-ce qui a poussé notre pays à aller vers une carte sanitaire en 2008? On était sur ce qu'on appelait les secteurs sanitaires. Et dans les secteurs sanitaires, il y avait un hôpital au milieu et tout autour, il y avait des structures légères, des polycliniques, voilà, des centres de santé, des salles de soins.
Des PSP et tout.
Voilà, qui couvraient un bassin de population dans une région donnée. Et on le dit, je le dis fièrement, c'est un système qui fonctionnait correctement. Personnellement, lorsque j'ai commencé à exercer, c'était en 1989. Et à l'époque, on était déjà dans cette configuration. Juste après, on est rentré dans une situation, il faut le dire, c'était une situation aussi financière difficile à l'époque. Et on est rentré dans une phase de violence et d'insécurité. Et c'est grâce justement à cette organisation qui était efficiente, qui était solide, qu'on a pu faire face en tant que système de santé, secteur de la santé, à toutes les situations qui se présentaient. On fonctionnait pratiquement dans l'urgence absolue et au quotidien, H24. Les attentats, les tueries, les blessés de tout bord. En plus, des situations normales, habituelles, qu'on prenait en charge. Les femmes continuaient à accoucher. On opérait des malades. On faisait la vaccination. On faisait les programmes de santé. Donc, c'est pour dire que ça fonctionnait correctement. Et on n'a pas compris pourquoi, en 2007, le décret 0740 du 19 mai 2007, à l'époque, on était avec M. Amar Touko, ministre de la Santé. Donc, le gouvernement a décidé, l'État a décidé de revoir un petit peu l'organisation et a séparé l'hôpital des structures légères. Déjà, à notre niveau, la lecture syndicale, c'était justement pour préparer cette prédation, faciliter l'accès de l'investissement privé dans le fonctionnement des structures publiques, récupérer des structures publiques. Voilà, on va commencer par diminuer au niveau du financement. Donc, on va créer une certaine crise au niveau du fonctionnement. Et voilà, des années après, tout le monde est en train de dire, voilà, ça peut pas continuer comme ça, il faudrait chercher d'autres moyens de financement. On y est actuellement. Le hic, oui, là où il y a problème, vraiment il y a problème, c'est que aller vers ce genre d'organisation pour le système de santé, ça sous-entend qu'on ait un système de sécurité sociale solide, qui ait une transparence, qui n'ait pas d'évasion fiscale à la hauteur de ce qui est recensé, ce qui est dit, ce qui est déclaré chez nous. Qu'on n'ait pas plus pratiquement 55 millions, c'est les chiffres de l'ONS, y compris de la caisse de retraite et des sécurités, des responsables de la sécurité sociale qui disent qu'au niveau de l'emploi, pratiquement 5 millions d'Algériens ne sont pas déclarés. il y a la, la sous-déclaration, il y a le, les charges, voilà, qui ne sont pas payées, y compris par des entreprises publiques, voilà, qui sont dans, dans, qui ont des difficultés financières. Donc, ils sont plus ou moins, il y a des facilitations laissées par le gouvernement. Je dirais, peut-être, peut-être, oui, justifiées pour le, pour maintenir un petit peu l'emploi. Et pour maintenir les salaires, mais nous considérons que ça a trop duré et nous avons exonéré, y compris des établissements, des entreprises publiques dans le secteur économique, de ne pas payer les charges des travailleurs pendant des années. Dans le secteur public, il faut, dans le secteur privé, pardon, économique notamment, il faut le dire, beaucoup ne sont pas déclarés. Il y a une évasion par rapport, par une manipulation, je dirais, par rapport aux charges qu'il faudrait laisser aussi à la sécurité sociale. Donc, dans cette désorganisation totale, dans cette défaillance en matière de gestion, justement, de l'argent de la sécurité sociale, dans cette incapacité d'organiser les choses et d'assurer, de renforcer au niveau du financement, d'assurer une certaine pérennité, un certain niveau, justement, de financement pour couvrir ces besoins, comment peut-on concevoir un projet de loi ouvert, justement, libéral de cette manière, ouvert dans tous les sens et permettant au privé d'investir dans tous les maillons, dans tous les niveaux d'après des soins. Nous considérons que il y a urgence à revoir un petit peu les choses et nous interpellons les instances les plus hautes instances du pays, notamment Monsieur le Président de la République, de geler, même si la loi malheureusement aujourd'hui risque d'être votée et votée dans ce sens. Et mais c'est pas trop tard. Nous disons que il faut continuer à lutter, il faut continuer à se battre et à poser ce problème et interpeller les plus hautes autorités pour que ce dossier ou ce projet, cette loi, même si elle est votée, soit gelée jusqu'à ce qu'on s'organise concrètement pour pouvoir l'appliquer. Voilà. Je le dis d'une manière un petit peu dans la caricature. Un véhicule, quel que soit le modèle, ne peut pas rouler sans essence. Le carburant, c'est tout simplement le financement. Et le financement, il y a un problème.
Justement, dans ce texte aussi, vous avez dénoncé aussi dans ce texte la volonté de ce texte de consacrer la domination c'est-à-dire de l'administration, mais aussi le rétrécissement des libertés, des droits des syndicats aussi dans ce aussi de la profession, mais aussi consacré avec beaucoup de textes, beaucoup d'articles qui en parlent sur ça, donc. Vous l'avez dénoncé. Qu'est-ce qui consacre cette...
Nous avons fait une lecture du texte, mais aussi, on a lu la synthèse faite par nos camarades donc de SNPSP. Dans leur conclusion, ils disent que le projet de loi consacre la mainmise de l'administration. Et prépare, c'est-à-dire le redressement d'accès et de la liberté d'accès aux professions médicales sous l'intitulé, d'ailleurs je l'ai écrit sous l'intitulé de تحكم في الإنفاق لا لا مومي ولا donc nous c'est-à-dire nous avons repris ce que les professionnels de la santé, notamment les syndicats, c'est-à-dire ils ont attiré notre attention par rapport à ce point et nous l'avons dénoncé. C'est-à-dire il y a beaucoup de critiques, c'est-à-dire il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à ceci. C'est pour ça que nous avons demandé simplement le retrait, nous l'avons rejeté dans sa globalité. C'est-à-dire parce que tout à l'heure il y a certains journalistes qui nous ont interpellés en disant il y a quand même des points positifs. Certainement il y a quelques points positifs, mais c'est-à-dire on peut pas prendre une partie du texte et on rejette le texte globalement. Et comme ce n'est pas encore trop tard. Moi tout à l'heure à l'Assemblée j'ai dit même si ce texte soit adopté aujourd'hui, il sera adopté parce qu'il y a une majorité, il y a une dictature de la majorité, d'ailleurs, même le ministre au niveau de la commission, quand même, de toute façon, le texte sera adopté. Quel que soit, il sera adopté. Donc, il y a la dictature de la majorité. Mais on interpelle les autres autorités du pays en disant que ce n'est pas encore trop tard. De fait, le texte n'est pas encore présenté au niveau de la deuxième chambre, ils peuvent procéder à son gel, ouvrir un débat, associer les professionnels, associer les experts et arriver à un consensus, à une loi consensuelle qui sera, qui garantira l'accès aux Algériens, Algériennes, l'accès aux soins. S'ajoute à tout cela, c'est moi tant que juriste, il y a la loi sanitaire avec 450 articles, avec 60, plus de 73 renvois au règlement, avec 42 ou 43 articles. Moi, je les qualifie d'un code pénal bis. 43 articles.
Tout à fait.
Ça fait que tout un chapitre, c'est un code pénal bis. Les professionnels de la santé, avant d'agir maintenant, ils vont dire que je suis.
Ça va créer beaucoup
ça va créer beaucoup de problèmes. C'est un texte à contrainte. Il y a beaucoup de contraintes. Ça, c'est un texte. Normalement, il vient. Il y a vraiment un besoin. Ils te disent maintenant, il y a un besoin, il y a une nécessité de doter le secteur de la santé d'une nouvelle loi. D'accord. Mais est-ce que cette loi réglera les problèmes ou les problématiques donc posées par les professionnels de la santé, par les patients, par le citoyen, par est-ce qu'elle réglera les problèmes de la santé? La réponse immédiatement est non. C'est un texte qui va, il va compliquer encore la situation davantage. Il va compliquer la situation davantage. Et pour moi, je l'ai dit lors de mon intervention, c'est un texte inapplicable. C'est-à-dire peut-être vont appliquer le chapitre financement, mais il y a beaucoup de chapitres de texte qui ne sont pas.
Justement, M. Omerabet, toujours dans ce sens.
Déjà par rapport à la carte sanitaire. Vous avez parlé de la carte sanitaire. Voilà, je voulais aller et arriver à ça pour dire que carte sanitaire. Les responsables nous ont habitués à utiliser des termes des fois qu'ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes. Voilà, lorsqu'il faut le dire, hein. Des termes un petit peu jolis, beaux, qui sont utilisés ailleurs, mais la carte sanitaire, d'une manière très très simple et très vulgaire, il faut le dire, c'est tout simplement mettre les moyens matériels, les structures, les moyens humains aussi, dans une région donnée. C'est-à-dire couper, partager le territoire national en région, en sous-région, et dans chaque région, il faudrait définir les besoins de la population et les aller en priorité. Est-ce qu'il faut mettre un CHU? Est-ce qu'il faut mettre juste un EHS? Est-ce qu'il faut cibler une pathologie par rapport à d'autres? Est-ce que il faut qu'il y ait une panoplie de structures de santé parce que la population elle est importante et parce que la situation sanitaire de cette région est diversifiée ou assez diversifiée? Donc, on est obligé de d'épouser une carte sanitaire qui répond tout simplement à la répartition de la population et aux besoins de la population. Voilà. Il faut pas aller dans des standards. On a constaté dans notre pays qu'il y a des hôpitaux à 240 lits, 220 lits, nouveaux, équipés, qui sont restés fermés pendant des années, et d'autres qui ont été ouverts, mais qui fonctionnent à 10% de leurs moyens, tout simplement parce qu'on n'a pas été dans une carte sanitaire réfléchie de cette manière, qui se projette dans les besoins, qui se projette par rapport à la réalité du terrain. Mais on l'a fait parce que tout simplement, il y a un député dans une région donnée, d'une wilaya donnée, qui a tellement crié dans l'hémicycle que finalement le ministre a accordé. Donc, et on se rend compte aussi que il y a des situations des structures de santé qui sont ouvertes, qui s'oublient à une décision administrative, à une décision politique. Un wali qui sort, pour une visite sur le terrain, la population l'interpelle, on veut un hôpital, on veut une polyclinique, on veut une salle de soins, et l'accord est donné, l'administration suit, l'enveloppe financière est dégagée, et puis on se rend compte sur le terrain, ça peut pas fonctionner tout simplement parce que les moyens humains, parce que le besoin n'y est pas, ou n'y était pas, et les moyens humains ne peuvent pas suivre, et on est en train de créer des besoins qui impliquent aussi un financement de manière durable, d'une manière continue. Là où il y a problème, c'est que ce projet de loi mais sur un même niveau le secteur public et le secteur privé, c'est-à-dire à travers le projet de loi, premièrement l'établissement public de santé change d'appellation, donc de statut juridique, il devient établissement de santé à caractère sanitaire, comme si un hôpital pouvait faire de la musique ou pouvait faire du sport ou, donc c'est évident que le secteur de santé sert à ça, mais l'arrière-pensée, c'est de permettre à moyen terme, peut-être à moyen terme, à long terme, je dirais, permettre l'investissement privé dans la structure publique. Voilà. Et on peut arriver à un pourcentage où l'investissement privé est plus important. Et au niveau du conseil d'administration, on peut revoir un petit peu les choses. Et pourquoi ne pas le dire carrément? On va céder cette structure publique lorsqu'elle fonctionne correctement, lorsqu'elle produit des richesses, elle produit du bien, donc une plus-value, au privé tout simplement. On a commencé dans le secteur économique de cette manière, et je pense qu'on est dans le même sens, on va aller dans le même sens avec... Et là où il y a le danger, c'est un danger par rapport à la rétribution justement de nos moyens et les difficultés qu'on aura à assurer pour tous les Algériens le même niveau de soins. Ça, c'est un
justement,
fait.
On constate un déséquilibre par rapport
tout à fait.
Ça.
Et le deuxième niveau, c'est au niveau professionnel. Nous considérons que lorsqu'on est dans cette configuration, la contractualisation dont vous avez parlé tout à l'heure va être mise en place dans les prochaines années. Elle va se faire de cette manière, c'est-à-dire en tant qu'assuré social, j'aurai le choix aller me faire soigner dans le privé ou dans le public. Ma caisse d'assurance maladie ou d'assurance sur prestations de soins aura aussi le choix d'investir dans le privé ou dans le public. Si les mêmes prestations dans le privé reviennent à 10 000 dinars par exemple et dans le public revient un peu plus cher, à 30 000 dinars par exemple, le secteur public doit revoir un petit peu ses prix pour pouvoir être contractualisable avec la sécurité sociale. Il doit le faire, mais il doit le faire par rapport au salaire, par rapport aux charges, donc il doit faire une compression des effectifs. Ça va se retentir aussi sur le cadre professionnel, y compris syndical à long terme. Donc c'est pour ça qu'on est interpellé, et on est en train de dire que c'est inapplicable pour plusieurs raisons. Il y a de la précipitation, mais surtout il y a une insistance de la part des lobbies qui sont les lobbies financiers, je dirais, les lobbies du secteur privé. C'est un peu logique, ils défendent leur terrain, leurs acquis, ils veulent plus aussi, mais ça doit pas se faire sur l'essentiel. Les soins et l'accès aux soins, c'est l'État doit le garantir à tous les Algériens, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient sécurisés en matière de donc affiliés à une caisse d'assurance maladie ou non. C'est à l'État, à travers ces organismes démembrés, de trouver les solutions et de lutter contre l'évasion et d'identifier ceux qui ne payent pas leurs impôts et ceux qui ne payent pas les charges.
Justement, dans cette nouvelle structure, le patient risque de se perdre, puisque dans l'un des articles, par exemple l'article 41, parle de recours du citoyen, le recours à une structure il se fait l'obligation de recours à une structure de soins publics ou privés, est obligatoire avant d'avoir l'accès à un établissement hospitalier public et dans lequel les prestations seront payées.
C'est le permis. Non,
oui, bien sûr.
C'est l'idéal. Oui. Dans tout système de santé, l'offre de soins et le respect des paliers de soins, il est assuré à travers ce qu'on appelle le médecin. Nous, on préfère parler du médecin de famille. La sécurité sociale.
On parle de médecin référent.
Référent déjà. Donc, il y a toujours une arrière-pensée financière. Donc, le coût, comment gérer, comment. Et c'est bien. Il faudrait aussi pouvoir gérer un petit peu les coûts, les maîtriser et orienter la dépense d'une manière, conséquente et d'une manière légitime. Mais il faudrait pas aussi que ça soit uniquement de cette manière. Nous, à notre niveau, réfléchissons à ce que qu'on puisse aller vers la formation spécialisée du médecin généraliste. Donc considérer la médecine générale en tant que spécialité, c'est fait ailleurs. Donc on est pas en train d'inventer. C'est fait dans la plupart des pays en Europe, aux États-Unis, dans des pays d'Amérique latine. C'est fait dans des pays arabes. Ça va commencer l'année prochaine à notre université en Tunisie et bientôt au Maroc, c'est officiel. Chez nous, c'est un balbutiement. On est en train de réfléchir et les responsables ne sont pas convaincus. Passer par Monsieur le ministre de la Santé, on a eu à le voir dans une audience et nous avons évoqué le sujet de cette manière. Le responsable n'est pas vraiment convaincu, n'est pas vraiment chaud. Donc c'est pour déblayer, c'est pas demain. C'est pas pour demain. Mais le fait de rattacher des patients à un médecin référent, un médecin de famille, c'est bien. Mais il faut le dire, l'Algérie, c'est pas Alger, l'Algérie, c'est pas Tlemcen, et c'est pas Constantine, et c'est pas Tizi Ouzou. L'Algérie, c'est aussi Saïda, c'est donc aller trouver un médecin référent, autour duquel on va on va s'organiser, organiser l'offre de soins. En absence d'une carte sanitaire, je dirais, équilibrée, qui distribue d'une manière équitable et juste ses moyens pour couvrir toute la population, on ne peut pas aller vers une telle organisation parce que tout simplement, c'est illusoire.
C'est-à-dire, donc, dans la réalité actuelle, auquel il y a un déséquilibre flagrant entre la distribution des établissements publics,
des moyens
aussi, ouais. La concentration dans, donc, comment peut-il, aux patients de pouvoir, justement, c'est-à-dire avoir accès aux soins, mais aussi dans, oui. Mais aussi, j'aimerais bien revenir sur cet aspect de la mainmise de l'administration, c'est-à-dire les pleins pouvoirs donnés au ministre de, c'est-à-dire dans la carte sanitaire, dans la nouvelle carte sanitaire. Donc, les partenaires professionnels, quel est votre rôle dans ce nouveau cadre?
D'abord, pour ce qui est de l'accès aux soins. La Constitution le stipule clairement, on va dire l'État, le droit à la santé. Normalement, l'État garantit aux Algériennes et aux Algériens le droit à la santé. Normalement, la carte sanitaire doit prendre en charge et en considération, c'est-à-dire le territoire. Donc, les structures de santé doivent couvrir le territoire national, doivent couvrir les différentes zones, pas uniquement dans les grandes agglomérations, même y compris dans certaines zones lointaines, avec une cartographie qui va garantir l'accès équitable aux soins à tous les Algériens et à tous les Algériens. Ce texte démontre, notamment à travers l'analyse de notre collègue, notre camarade donc Yassine Rabat, que le gouvernement recourt pour une énième fois un coup de force. Donc il fait passer cette loi par force, une violence. Il va faire subir aux Algériennes et aux Algériens une autre violence institutionnelle, parce qu'il recourt à une majorité tronquée, à une majorité qui constitue un comité de soutien à un gouvernement ou à un ministère sans stratégie, pas sans stratégie, mais avec une stratégie qui répond
à des objectifs.
À des objectifs de certains lobbies. Donc, même quand on parle du privé public, moi je l'ai dit qu'aujourd'hui, qui sont les Algériens qui sont contraints de recourir au privé? Si les Algériens vulnérables, si les Algériens qui n'ont pas parce que il y a des structures de santé publique performantes. Qui sont ces Algériens privilégiés donc de bénéficier de certains soins, c'est-à-dire performants que certains établissements publics, c'est-à-dire on retrouve de simples citoyens algériens qui n'arrive pas à placer son patient ou son malade dans un établissement, qui ne peut pas avoir un rendez-vous, qui ne peut pas avoir des certaines performances, parce que les IRM par exemple dans les hôpitaux et quoi que non, c'est-à-dire les déroubaras, les scanners déroubaras, les analyseurs déroubaras. Donc dans le cas de simple citoyen qui recourt des fois, on a même un exemple, il y a les citoyens يبيع الشجرة تاعو يبيع الطوموبيل تاعو يبيع المرأة الهندية تاعها باش pour subvenir aux besoins pour prendre en charge soit son père soit son frère ou là son fils ou là son époux. Donc quand on parle public privé aujourd'hui, c'est le simple citoyen qui est poussé pour y aller vers le privé. Bon, ceux qui sont de la monoclature, soit ils bénéficient des soins performants en Algérie, soit ils sont pris en charge à l'étranger. D'ailleurs, moi, j'ai ironisé même, j'ai dit ce qui manque dans ce texte, c'est un petit chapitre Val-de-Grâce. Parce que qu'on a un petit problème de dents, il l'a soigné à l'étranger, mais le citoyen, c'est pour ça on a dit cette loi concerne les Algériens, les citoyens, c'est pour ça il faut qu'il y ait un large consensus autour de cette loi, avec l'implication de tous les Algériens dans le débat.
Tout à fait. Ben, pour revenir un petit peu sur, enfin, dans notre, je dirais, dans
sur l'administration. Moi, j'aimerais bien, c'est-à-dire, parce qu'il a insisté sur la mainmise de l'administration.
J'allais parler de ça, justement. J'allais parler de ça aussi. C'est pour dire, je voulais revenir sur je dirais, le chapitre syndical, parce que là, nous avons aussi une lecture syndicale par rapport au texte. Donc, il y a ça. Déjà, il y a à travers l'article 185, où voilà, on nous explique l'administration, parce que nous avons demandé des explications. On nous a dit que, tout simplement, l'administration pourrait agir lorsque elle juge voilà, qu'il y a un peu des abus, il y a un dépassement au niveau des dépenses. Donc ça, c'est pour dire déjà l'arrière-pensée qui existe. Et ça nous pousse à poser une autre question. Qui a été derrière ce projet de texte? Qui a été derrière? Nous, on n'a pas été concertés, on n'a pas été associés, on n'a pas participé, et d'autres aussi. Je parle des syndicats des praticiens, enfin des professionnels de la santé d'une manière générale, qu'ils soient paramédicaux, sages-femmes, médecins, hospitaliers universitaires, spécialistes et généralistes. Tout le monde le dit, on n'a pas été consulté. Donc, grand point d'interrogation, qui a été déjà derrière le projet de texte. Lorsqu'on est par rapport à ces dépenses, l'administration, nous le disons, n'a pas le droit d'interférer, le code de déontologie l'interdit clairement. On doit laisser la liberté, justement, professionnelle de la santé d'agir dans le cadre des consensus, dans le cadre de ce qui de ce qui est admis au niveau universel par rapport à une prise en charge, par rapport à une exploration. Et voilà. Sinon, l'administrateur, demain le politique, va décider sous une contrainte financière donnée ou une orientation politique, justement, intervenir au niveau du travail des professionnels de la santé. Ça, on peut pas l'accepter. Deuxièmement, il y a le niveau aussi de ce qui a été mis comme batterie de mesures répressives, je dirais, en matière d'articles qui parlent des sanctions, c'est vraiment liberticide en matière. Et ça va compliquer la relation médecin-malade. Donc, les praticiens, pour se protéger, vont user de beaucoup de stratagèmes pour ne pas se retrouver dans des situations à répondre aux questions des juges. Et ça va se retentir sur, justement, le malade et la relation médecin-malade. Et on l'a vécu dans d'autres pays. Le troisième niveau, c'est par rapport au service civil. Donc voilà, je devais dire un mot par rapport à ça. Et c'est là justement des articles qui a vraiment attisé la situation actuelle, qui a poussé nos collègues médecins résidents à aller jusqu'à suspendre l'activité au niveau des gardes. Et ça, c'est pour dire qu'on est dans une situation dramatique, le pourrissement à fond et cette situation de désespoir, de voir qu'au niveau du projet, au lieu d'aller calmer les esprits, il y a une loi de 84 qui n'a pas été abrogée, qui parle du service civil, elle est toujours ici. Pourquoi aller encore mettre un article et consacrer le service civil dans une nouvelle loi en 2018? Ça sous-entend qu'à notre niveau et au niveau de nos collègues médecins résidents, que cette situation va encore durer peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années. Et ça, c'est fait pour ne pas rassurer tout simplement. Et je pense que ça a contribué à envenimer un petit peu les situations à côté du fait que jusqu'à présent, une prise en charge réelle des problèmes qui sont posés par nos collègues, et c'est légitime. Voilà, peut-être qu'on peut pas aller vers une solution à 100% de tous les problèmes posés, mais nous pensons que concrètement, jusqu'à présent, pour l'essentiel des situations posées, les pouvoirs publics n'ont pas répondu, notamment par rapport au service civil, mais aussi par rapport au service national. Donc voilà, jeune Algérien, universitaire ou non, nous sommes tous égaux devant la Constitution, obligations et droits. Nous considérons qu'à ce niveau-là, justement, le droit a été bafoué. Et sur le plan constitutionnel, le premier magistrat est interpellé, le président de la République est interpellé. Nous demandons qu'il y ait des solutions à ce niveau-là. Et je pense que jusqu'à présent, l'État, le gouvernement, les pouvoirs publics n'ont pas répondu. Et nos collègues jeunes médecins résidents ne demandent pas la lune. Ils demandent tout simplement qu'ils soient écoutés, qu'il y ait des explications rationnelles aux situations qui leur ont imposées. Et on n'a pas besoin, justement, d'avoir et à écouter des responsables qui nous traitent qui essayent de nous malmener, de nous présenter à la population comme si on était des voyous. Voilà, on est des Algériens à part entière. Nous avons nos obligations, mais nous avons aussi nos droits. Tout simplement.
Justement, j'ai une chose à signaler par rapport à ça. Il y a les professionnels du secteur qui n'arrivent pas à avoir une vision, une coordination commune, une vision commune par rapport à ça, au projet de loi, parce qu'il y a chacun le voit d'un angle.
Personnellement, j'ai laissé un commentaire sur la page Facebook du Syndicat national des praticiens de santé publique, et je l'ai dit clairement. J'ai dit que malheureusement pour la corporation, les professionnels de la santé dans leur ensemble, à travers les syndicats, les associations, ils n'ont pas été assez intelligents, assez capables voilà, de se réunir autour d'une table, autour de l'essentiel. Un projet de loi qui engage le secteur, le système de santé, qui nous concerne directement et indirectement en tant que professionnel, mais aussi en tant que citoyen. Et un projet de loi aussi qui a suscité débat au niveau de la société, même si un débat qui n'a pas pris n'a pas été pris dans toute sa dimension, qui a été un petit peu tronqué, qui a été poussé dans une orientation, mais les professionnels de la santé n'ont pas été assez intelligents, assez capables et assez engagés pour s'asseoir autour d'une table et sortir avec une position consensuelle par rapport au projet. Il faut le dire, nos collègues hospitaliers universitaires sont plus orientés, branchés sur ce qu'on appelle le droit à l'activité complémentaire éducative. Là, on est tout simplement opposé à ça.
D'ailleurs, le ministre a fait marche arrière par rapport à cette...
Monsieur le ministre a, dès le départ, défendu l'activité complémentaire éducative, bien que le projet, lorsqu'il a atterri à la PM, à la première chambre, il a atterri au nom du président de la République, puisqu'elle a été validée dans un conseil des ministres. Donc, normalement, donc, monsieur le ministre de la Santé, l'ex-ministre ou l'actuel ne pouvait que défendre justement le projet validé
au
conseil des ministres et pas aller à l'encontre de certaines dispositions qui sont dedans, notamment l'activité complémentaire. Il l'a dit dès le départ, il l'a défendu jusqu'au bout. C'est pas notre position. Donc déjà, nos collègues universitaires, ils sont tout ce qui les a intéressés, je le dis, c'est parce qu'on n'a pas entendu autre chose, on n'a pas vu autre chose, c'est uniquement cet aspect. Nos collègues représentant les pharmaciens, les syndicats privés, les syndicats des officiers des pharmaciens installés dans le privé, ils sont la majorité des pharmaciens, ils sont dans le privé. Dans le secteur public, c'est à peine 1200 pharmaciens au niveau national. C'est pour dire le déséquilibre qu'il y a. Et à ce niveau-là, le syndicat des pharmaciens s'est manifesté uniquement par rapport à l'article 259. Donc, nos collègues, nos jeunes médecins, nos collègues médecins résidents, c'est surtout par rapport au service civil. Le syndicat d'après des praticiens de santé publique a essayé de faire une lecture, je dirais, globale et laisser un aperçu par rapport à notre position, argumentée, documentée. Oui, on a peut-être été à côté de certains aspects qu'on n'a pas pu développer ou assez développer, mais je pousse pour l'essentiel, nous avons laissé un avis qui concerne tout le monde, qui concerne la population, qui concerne les professionnels et qui interpelle aussi les pouvoirs publics.
Justement, un dernier mot,
notamment sur la grève, sur le service civil et la grève des médecins résidents. Donc, ça démontre une énième fois que le ministère de tutelle et le gouvernement ont failli. Il y a la faillite, c'est-à-dire un dossier posé depuis plus de 5 mois, une grève de plus de 5 mois. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment un dialogue sérieux, un dialogue serein, responsable. Pour régler définitivement ce dossier épineux qui est posé, un dossier légitime aussi, parce que c'était revendication légitime. Donc maintenant, c'est-à-dire si on rentre dans le débat service civil ou pas service civil, obligation ou pas obligation, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel le plus important, c'est de s'écouter, c'est de chercher une solution, arriver à un compromis, à une solution. Parce qu'on ne peut pas gérer un secteur sensible avec... c'est-à-dire, moi j'ai l'habitude de dire, on gère pas les destinées d'un pays avec Tarnet, on gère pas des secteurs sensibles comme le secteur de la santé avec Tarnet. Chacun de son côté doit faire des concessions pour l'intérêt du citoyen, l'intérêt du patient, l'intérêt du secteur de la santé et l'intérêt de l'Algérie. Et le dernier mot, moi je maintiens nécessité ou l'urgence de geler cette loi et d'ouvrir un débat national pour arriver à une loi consensuelle qui va c'est-à-dire garantir à tous les Algériens l'accès équitable aux soins.
Merci beaucoup, donc docteur Elias Merabet, président du syndicat national des praticiens de la santé publique, merci d'avoir répondu à notre invitation. Jamel Balloul, député du Forum des Forces Socialistes, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Auditeur et auditrice de la radio Rage Voix du Jeune, merci d'avoir été avec nous dans l'émission Café des Libertés.
Radio Rage, Voix de Jeunes, une radio libre pour une parole libre.